Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus. Alors, on revient sur le process de création de ton festival. On est en mai, t'es toute seule jusqu'au mois d'août. Là, vous parlez, tu commences à trouver un sujet. Puis là, le début de l'été arrive.
Tu contactes les chefs. Alors, une question très importante.
Ah.
Est-ce que les chefs sont payés? Les chefs invités sont payés pour venir à Montréal?
Non. Il n'y a pas de cachet pour les chefs invités qui viennent à Montréal. On fournit leur hébergement et on fournit leur transport aérien. Donc,
hébergement pour combien de personnes? Ben, s'ils viennent avec leur brigade, ce qui a été le cas pour Adrien Cachot.
Oui, alors c'est un chef et un sous-chef.
Un chef et un sous-chef.
Oui, on fait leur billet d'avion et leur chambre d'hôtel pour un maximum de 7 nuits. Et puis après ça, le restaurateur qui les reçoit, les prend en charge. Hein. Faut quand même leur donner le crédit. Ils les sortent, ils les amènent dans les restaurants de Montréal, comme le disait Jérémy Bastien d'ailleurs dans son podcast avec vous autres, pour un peu leur montrer les restos qui ont l'ADN de Montréal. Mmh. J'ai trouvé ça très intéressant comme expression. Là. Mais oui, ils font. Et puis il y en a qui les amènent faire du traîneau à chien, du skidoo.
Il faut souligner encore une fois la générosité des chefs qui viennent, parce qu'ils viennent gratuitement.
Oui.
Et on en a rencontré beaucoup qui venaient avec plus qu'un membre de leur brigade. Ça veut dire que c'est eux qui payent pour le reste de leur équipe. Je pense que Adrien Cachot est venu avec 4 personnes ou 5 personnes.
4 personnes.
Donc s'il vous en payait pour 2,
il a 2 sous-chefs.
Donc c'est quand même, il faut quand même souligner cette générosité de la part des chefs.
Oui, absolument. Tu sais, puis c'est sûr que nous, on aimerait pouvoir leur donner des cachets, mais Montréal en Lumière, ça reste un organisme à but non lucratif. Comme le festival de jazz, comme les Franco, donc on est soumis à un budget très strict. Donc c'est plus difficile. Là,
mais je pense que quelque part c'est bien aussi de promouvoir cette. C'est pas un cachet de travail. Ils le font parce qu'ils ont envie de faire plaisir.
De partager. Il faut pas corrompre ce sentiment avec de l'argent.
Ouais,
bien dit,
ouais.
Très bien. Ah, faut pas corrompre ce sentiment. Non. C'est très bien dit.
Ouais.
Ah ouais, non mais
tu vas faire la prochaine intro, Pascal.
Oui, je le ferai. ça, depuis le temps, ça me titille. C'est très important parce que le partage, on revient toujours sur les mêmes valeurs. Là, ils veulent partager, ils viennent. C'est vraiment très généreux comme festival.
Ben, on la sent cette générosité-là, puis on dirait que ça rejoint aussi ce que c'est de manger. Tu sais, nous on mange, mais les chefs nous nourrissent. Donc cette générosité-là, elle est là à la base aussi. Tu sais, ils nourrissent les gens. Donc puis tout ce qui se passe autour d'une table, on trouve beaucoup plus de on se trouve plus de similitudes autour d'une table que de différences. Tu sais, je trouve qu'autour de la table, la nourriture, c'est vraiment un beau symbole de générosité, de chaleur humaine.
Beaucoup de chefs nous disaient, ils ont des attitudes différentes, ils se connaissent, ils s'apprécient parce qu'ils partagent le goût de la valeur de la bonne nourriture, de la bonne cuisine.
Absolument. Tu sais, tout l'attrait des produits locaux de la part de nos chefs ici, ben les chefs qui viennent de partout à travers le monde, ils ont le même attrait pour les produits locaux, tu sais. Donc et puis tu sais, tantôt vous me posez la question, c'est quoi tes critères pour choisir un restaurant? Ben faut que ça soit un restaurant indépendant, pas de chaîne, puis il faut que ça soit un chef qui mette les produits locaux de l'avant. Donc puis on peut dire que 100% des restos qui participent à Montréal en Lumière le font, il y en a qui se mettent une pression d'y aller presque à 100%. Donc tu sais c'est vraiment ce travail-là est incroyable. Puis ce travail-là, donc, il est dans l'assiette, mais il y a quelque chose qui se passe ailleurs aussi, qui est dans au niveau de l'identité, encore de la culture, d'encourager l'économie locale, de soutenir l'économie locale au niveau éco-responsable, de soutenir des ingrédients qui viennent d'un circuit court, là. Je veux dire, c'est un des critères d'une étoile verte, ça, là.
Et on s'entend, en février à Montréal, c'est dur de trouver des circuits courts. C'est un challenge, hein.
C'est un gros challenge.
C'est un challenge.
Ouais, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'on pourrait penser à un Montréal en lumière,
Sur ma question de tout à l'heure. Ouais, mais festival de jazz, en été, quand tout va bien.
Ou en septembre, quand il y a les citrouilles, du maïs, plein de choses super cool.
Ça corromprait un peu la mission initiale de Montréal en Lumière en 2000, quand la Ville de Montréal a approché l'équipe Spectra pour créer un festival au mois de février, après la Saint-Valentin, où le centre-ville de Montréal était mort. Mmh. Les restaurants étaient vides, les hôtels étaient vides, les salles de spectacle étaient vides. Extérieurement, il y avait personne dans les rues. Donc, l'équipe Spectra est arrivée avec l'idée de Montréal en Lumière, qui conjuguait le volet culturel avec des spectacles en salle, le volet gastronomique avec les arts de la table, puis le volet extérieur avec un site extérieur qui permet aux gens d'avoir des activités gratuites, donc de venir au centre-ville. Et ça, ça se passe dans un moment où c'est très, très tranquille à Montréal. Donc, les restaurateurs l'apprécient beaucoup.
Oui.
Oui, oui, parce que...
Ils ont le temps, tout simplement. Même les restaurants qui viennent, qui sont invités, ont le temps de laisser leur restaurant une semaine, de fermer leur restaurant une semaine, ou de le laisser à leur sous-chef ou quelqu'un d'autre pour le runner de façon un peu plus calme.
Tu as tout compris, Émeric. Voilà. Exactement. Si on fait ça au mois de septembre, les chefs sont super occupés avec les récoltes. Hein. Ils font de la fermentation, de la conservation. Je veux dire, c'est super important cette période-là pour préparer l'hiver, hein, comme le faisaient nos ancêtres d'ailleurs au Québec. Et les chefs internationaux sont moins disponibles aussi. Donc, tu sais, je pense que la date de fin février, là, l'avant-dernière semaine de février, toujours autour du 18 février, 20 février, là, dans ces eaux-là qu'on commence, moi, je trouve que c'est une date optimale. On en a souvent parlé de changer les dates, mais ça, on revient quand même à cette mission-là première qui est de soutenir le milieu de l'hôtellerie puis de la restauration à Montréal et de la culture.
Petite question d'organisation. La date... La période de la programmation culinaire était un petit peu en avance par rapport à la programmation musicale. Pourquoi?
Ben, bravo pour ton observation. C'est la première fois qu'on m'en parle, donc ça va me faire plaisir d'en parler. Mm-hmm. Donc, je le disais tantôt, l'industrie des festivals a été fragilisée. On le voit, là, il y a juste Pour Rire qui a été fermé. Mm-hmm. Donc, cette année, Montréal en Lumière a dû être confrontée à des compressions budgétaires quand même. Donc, l'année passée, on était sur 3 semaines. Cette année, le festival volet extérieur a dû être amené à 2 semaines pour des raisons budgétaires. Et donc, au lieu d'être à partir du 22 février jusqu'au 10 mars, a fallu choisir 2 semaines entre ces dates-là.
OK, donc tu avais déjà des chefs qui avaient répondu oui.
Oui, et là, on a choisi 29 au 10 mars pour le volet extérieur pour inclure la semaine de relâche, pour les activités extérieures.
Je comprends.
Mais moi, j'avais déjà des démarches. Ça a été décidé fin octobre. Moi, j'avais déjà entamé des démarches auprès des chefs locaux et internationaux pour les faire venir pendant le festival à partir du 22 février. Donc, nous, on a décidé de garder la date du 22 février pour la programmation gourmande. Puis honnêtement, ben, je ne sais pas encore comment ça va se passer l'année prochaine, mais c'est un modèle à retenir parce que la première semaine, on jouit de la promotion exclusive de Montréal en Lumière parce que le volet extérieur n'est pas commencé. Donc, tu sais, il y a des avantages quand même à garder en tête. Parce que moi, dès le mois de septembre, je fais une rencontre avec les 50 restaurateurs. Je les invite physiquement, puis je leur présente la programmation à venir. Donc, la thématique, tout l'échéancier, hein, parce que les restaurateurs, il faut qu'ils travaillent quand même pour participer à Montréal en Lumière.
Oui.
Ils ont des délais à rencontrer.
On en connaît quelques-uns qui ont couru à droite à gauche.
Les
chefs sont des rockstars, comme on disait au début.
Parfois des artistes, hein, peut-être en l'air.
Ben, en fait, c'est des rockstars. Moi, je dis que les chefs, c'est des rockstars sans agent ni gérant.
Oui, c'est ça.
Donc, il n'y a personne pour les organiser. Et puis, ils sont très occupés parce que c'est la majorité qui participe à Montréal en Lumière, c'est des chefs propriétaires. Donc, ils sont pas juste chefs, ils sont aussi, ils s'occupent des ressources humaines, de la comptabilité, ils s'occupent de tout, là, tu sais, donc c'est normal.
De déboucher les toilettes.
Oui, il y a tout. Donc, tu sais, puis moi et mon équipe, on crée évidemment un échéancier, des formulaires, des documents à remplir, on leur demande des photos, des bios, tu sais.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir le retour des chefs?
Hey, honnêtement, là, je peux te dire que 95% du temps, non. Ils sont vraiment, vraiment géniaux, les restaurateurs avec qui je travaille. Je leur lève mon chapeau, c'est le cœur de la programmation gastronomique. T'sais, on a plusieurs volets à la programmation, je l'ai dit, il y a le quartier gourmand, on avait les apéros Montréal en Lumière, on avait le souper Air France, hein. Ça c'est parti de mon idée à moi, le souper 90 ans d'Air France avec Olivier Perret puis Pasquale Varie que vous avez reçu. On allait vers 25 ans, 25 brunch. T'sais, on a quand même plusieurs volets. Mais le cœur du volet gastronomique, c'est les Bonnes Tables Air France, c'est les 50 restaurateurs qui participent à Montréal Lumière. Sans eux, il n'y aurait pas cette belle notoriété-là dont jouit le volet gastronomique.
Là, tu parles des restaurateurs qui accueillent, mais les invités, c'est sûrement plus compliqué de rester en touche avec eux, sûrement?
Ça dépend, mais je dirais en majorité, ça va bien quand même. Là. Je dirais mais encore un 95%, ça va super bien. T'sais, puis après ça, il y en a quelques-uns pour qui c'est plus difficile parce qu'ils sont plus occupés, ils ont moins le temps. Il y en a qui sont pas juste dans leur cuisine, ils font de la télé aussi. T'sais, ils sont impliqués, ils font d'autres événements à travers le monde, ils sont impliqués dans différentes associations. Donc, mais on finit toujours par avoir ce qu'on a besoin.
Est-ce que tu leur donnes est-ce qu'ils ont un cahier des charges quand les chefs invités pour préparer leur menu? Ou ça peut être c'est leur cuisine, point.
L'équipe de programmation a aucun regard éditorial sur le menu que les chefs font ensemble.
Okay.
Que ça soit pour un jumelage ou pas un jumelage. Nous, à la programmation, on laisse aller les chefs dans leur créativité. Ils choisissent le menu qu'ils veulent. Vraiment, là-dessus, ça fait fierté que je le dis. Chacun son métier. Moi, j'organise des festivals. Eux, ils font des menus, ils nourrissent les gens, puis ils le font bien. Donc, on n'a pas de regard éditorial.
Est-ce que tu as pu en profiter un peu?
Oui.
Ou tu as travaillé tout ce temps? Il y avait une frontière sûrement qui n'était pas facile à trouver, mais est-ce que tu as pu profiter, t'asseoir et profiter d'un bon repas ou de quelques bons repas?
Absolument. Il faut dire aussi que pendant Montréal en Lumière, on reçoit une trentaine de médias de partout à travers le monde, France et États-Unis. Donc, ça se passe beaucoup autour de souper. Donc, on invite des journalistes. Puis moi, je suis en entrevue pendant 3 heures avec eux dans un restaurant. Donc ça se passe. Je suis allée au Sabayon. Je suis allée... une belle surprise cette année, ça a été le jumelage au Mythique, qui est un restaurant du Centre Bell, en fait. Donc, on s'imagine Centre Bell, Arena, Hot Dog.
C'est ça.
Mais non, Yves Lowe, le chef exécutif, qui a déjà travaillé avec Claude Pelletier et Jeremy Charles au Méditerranéo, qui a déjà participé à Montréal en Lumière. Donc, Yves Lowe, c'est le chef exécutif du Centre Bell. On leur a proposé de participer à Montréal en Lumière avec le Mythique et puis il y a eu la bonne idée d'inviter son ancien pote, Jeremy Charles, qui est à Terre-Neuve maintenant, au Raymond's. Ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas travaillé ensemble, 25 ans de Montréal en Lumière. Puis ils sont venus au Mythique, puis ils ont créé un menu autour des côtes. Parce que Yves vient de la Côte-Nord, Jeremy vient de Terre-Neuve. Donc, c'est des lieux qui sont embrassés par le fleuve Saint-Laurent puis par l'océan. Donc, ils ont créé un menu côtier. C'était tellement bon, les gars. C'était des fruits de mer frais, des huîtres, des oursins. Il y avait de la morue. Il y avait une salade de moules et fenouil qui était absolument exquise. Il y avait du canard aussi, donc il était un petit peu plus viandeux, mais c'était vraiment bon. C'était surprenant, puis ça a donné le ton, tu sais. Fait qu'il faut y penser des fois, qu'il y a des restos au Centre Bell qui servent de la bonne nourriture quand même. Ouais.
Est-ce que ça te donne une idée pour un thème, pour un prochain Montréal en Lumière, tout ça?
Ben, je ne sais pas encore. Là, j'ai besoin de prendre du recul.
Ah oui.
Ouais. Mais là, tu sais, des fois, la fatigue. Puis j'ai encore les deux pieds dans la 25e édition en ce moment. On est dans les bilans, les post-mortem, etc. Donc, j'ai besoin de prendre du repos. 2 semaines de vacances, 2 semaines et demie de vacances. Puis ça va popper, puis je vais parler à des gens, tu sais, je vais aller voir les restaurateurs, ils ont toujours des bonnes idées, ils sont tellement créatifs.
Alors, comment ça se passe, je reviens toujours sur l'organisation, ta vie pendant le festival, comment ça se passe, c'est quoi ta journée? Tu te lèves à 3h du matin, tu te couches à 2h30?
Ben, en fait, on travaille 7 jours sur 7, déjà. Donc, parce que, comme je vous le disais, le festival a commencé le 22 février, mais il y a des chefs qui sont arrivés le 18 février. Puis bon, ben il y a des vols qui sont en retard, il y a des vols qui sont annulés. Ben, alors, on appelle qui? On appelle Julie. Donc, ça commence des fois très tôt. Il y en a qui oublient qu'il y a 6 heures de décalage. Des fois, j'ai des appels à 2 heures du matin. Mes journées sont bien remplies 7 jours sur 7. Je peux dire que je vis plus de soir pendant le festival. Tu sais, donc, on va commencer un peu plus tard le bureau, mais on est dans les restos jusqu'à très tard. Donc au minuit, 1 heure, là, je vais rentrer à la maison après avoir mangé... un bon repas quand même. Je me plains pas, là. Faut bien tester la marchandise.
Oui, oui, c'est
recherche et développement.
On espère bien.
Ouais, ouais. Vraiment, c'était, cette année, j'ai mangé, j'ai parlé du mythique, le Sabayon, mais le Master aussi, c'était délicieux. Il y avait, aussi Hogan et Beaufort avec Adrien Gautrain.
C'était du bon vin.
Ah, du bon vin. Vraiment du bon vin. Menu Extra. Aussi, je peux dire que les gars de Menu Extra, Francis Blais, Alexis Demers, ce qu'ils font, là, c'était vraiment... Ils ont reçu un vigneron.
Oui.
Tom Loubet, du vignoble Matassa, qui était sur place, en fait. Donc, ça, c'était incroyable. Quel vigneron intéressant. Vraiment un parcours Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, achète un vignoble en France, fait des vins dans le Sud. Il nous a parlé beaucoup des conditions des vignerons à cause des changements climatiques. Donc, lui où il est, l'année passée, il a fait des vendanges le 25 juillet. Quatre mois de sécheresse au lieu de deux. Tu sais, donc, il y a toute cette dimension-là. Hein? On oublie les vignerons, c'est des agriculteurs aussi. Là.
Oui.
Donc c'était une rencontre passionnante. Fait que c'est ça aussi la force de Morland-Lemierre, c'est qu'on les festivaliers, parce que moi, je me transforme en festivalière dans ce temps-là. Là. Puis on a une rencontre humaine entre les chefs. Les chefs d'ici se promènent dans la salle, mais les chefs invités aussi vont voir les clients, puis ils parlent de leur parcours. Puis les gens ont tellement de questions à leur poser. On est vraiment intéressés au Québec, hein, quand même.
Ouais, c'est une chance de partager cette culture, et surtout avec des chefs d'une grande renommée, quoi. C'est super.
Ouais, on a accès à eux directement.
Donc, pour toi, ça dure combien de temps, le festival? 3 semaines? Du 18 février à...
C'était du 18 février jusqu'au 10 mars.
Ouais, quand même, hein?
Ouais,
Quatre semaines intenses,
là. Tu sais, 21 jours tantôt, mais 28 jours d'affilée à travailler. Donc, il faut être fait fort, comme on dit.
Tu te prépares comment avant le festival?
Ben, je fais bien attention. Je dirais qu'un mois avant le festival, je bois pas d'alcool. Donc, je m'entraîne beaucoup. Je suis une joggeuse, donc je fais beaucoup de jogging. Je m'entraîne aussi, je fais un peu de pilates. Donc, je fais attention à ce que je mange aussi pendant ce temps-là. Mais il faut croire aussi, tu sais, que même si on mange beaucoup pendant le festival, on mange très bien,
oui.
Là. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Je peux pas dire que j'ai fait des indigestions parce que chaque ingrédient est tellement minutieusement choisi et apprêté que c'est vraiment super bon. Puis, tu sais, je me prépare. Puis pendant le festival, l'alcool, je fais attention aussi. Là, on parle de demi-dégustation où je finis pas mes verres, je goûte un peu, mais...
Est-ce qu'il faut vraiment pas que tu sois malade pendant ces 4 semaines?
Faut pas. On fait attention. Tu sais, je suis full vaccinée. Je fais super attention aussi parce qu'on voit des gens de partout à travers le monde. Donc, faut faire attention aussi à tout ça. Mais faut s'amuser, hein?
Oui.
Parce que c'est tellement de travail qu'il faut absolument y trouver la dimension du plaisir parce que c'est ce que cette industrie-là aussi représente beaucoup, le plaisir de manger quand même, c'est important.
Alors, tu nous as dit que tu étais seule en mai... Là, au mois de février, pendant le festival, il y a combien de personnes dans ton équipe?
On est 4 en tout. Donc, j'ai Tony Cassia qui est avec moi depuis 3 ans déjà, qui revient.
Pour la partie
programmation.
Gastronomie.
Oui, programmation gastronomique.
4 en tout.
Okay. Oui, c'est ça, 4 en tout. Donc, il y a Tony qui est là. Lui, c'est mon co-ordo, puis il est là pour, comme le souper Air France, j'ai eu l'idée d'avoir l'idée du souper Air France à l'ITHQ. Lui, il fait les opérations. C'est un ancien chef. C'est un gars de restauration. Fait que lui, c'est le boss des opérations. J'ai Élodie Guilherme qui est là depuis 2 contrats aussi, qui s'occupe de l'administration. On a beaucoup de contrats à faire, de paiements à faire pour le quartier gourmand. Tous les producteurs qui viennent faire des présentations au quartier gourmand sont payés. Donc on leur fait des contrats, on leur fait des cachets. Donc, toute cette portion-là administrative, c'est Élodie qui s'en occupe. Puis j'ai Hector qui, lui, est avec le Spectra depuis 20 ans aussi. Lui, il s'occupe du transport puis de l'hébergement. Il boucle les billets d'avion puis les chambres d'hôtel. Donc, lui, là, il a du...
Le travail.
Oh, il y a du travail à faire aussi.
En fait, vous avez tous du travail, parce que 4 personnes pour gérer un événement comme ça, c'est incroyable.
Il y avait combien de chefs invités?
Écoute, il y en avait, je dirais, 50 en tout. Parce qu'on avait des chefs du Canada aussi. Tu sais, vous avez reçu Stéphanie O'Gilvy, entre autres.
Bien sûr.
J'ai parlé de Jeremy Charles tantôt, mais on avait des chefs du Québec aussi. Les Faubergers qui étaient au bivouac.
Maxime Lisotte.
On a rencontré de Toronto l'équipe de Pompette.
Ouais, qui était à l'hélicoptère. Ben oui, absolument. Il y avait Trey Anderson qui était au Kamui. Trey,
oui.
Ouais.
L'équipe qui était au Bar Georges aussi.
Ben oui, du Portugal, en fait. Mais il y avait Anthony Walsh de Toronto qui était là aussi. Puis il y a des distilleries québécoises aussi. On avait Circa qui était au Monem. Il y avait encore...
Menot
qui était chez... Oui, ben en fait, chez Pilote, le nouveau projet...
Ouais, Pilote. Hein.
Copilote. Oui, le nouveau projet de David du hélicoptère. Donc, on reçoit vraiment beaucoup d'invités. Donc en tout on en avait une cinquantaine. Il y a des sous-chefs qui viennent aussi là. Donc tu sais, faut réserver des chambres d'hôtel puis des billets d'avion pour tout ce beau monde là. Fait que ouais, on travaille tellement fort là, mais on est fiers aussi du travail qu'on fait là, puis toutes les gens qui travaillent avec moi, c'est des passionnés. On va au-delà de ce qu'on a à faire.
Ben, ça doit être dur quand même, quand t'es passionné, que tu diriges une équipe, d'avoir des gens qui sont pas passionnés. Donc forcément, si tu me disais ah « ben, ils sont pas trop passionnés », je dirais « attends, ouais. qu'est-ce qui se passe ?»
En tout cas, vous pouvez être fiers du travail accompli, ouais. Parce que ouais, c'est sûr, aussi bien, on a rencontré beaucoup de monde et qui étaient très impressionnés par le Québec, la culture culinaire au Québec. C'est le premier lieu, mais aussi l'organisation, aussi cet événement. Là, on a rencontré plein de monde. C'était leur première fois qu'ils participaient à un événement de ce style. Et ils disaient, ah, c'est vraiment génial. J'espère que je serai réinvité l'année prochaine. Wow. C'est vraiment, on a reçu beaucoup de bons mots qui étaient pas, on leur tirait pas les verres du nez pour dire ça, quoi. On leur disait, comment ça se passe? Est-ce que t'es content d'être là? Et puis c'était, ah ouais, c'est... Et même en off-caméra, tu vois, c'était vraiment, vous pouvez être fiers.
Ah ben merci, ouais, ça me fait plaisir à entendre, puis je vais aussi passer le mot à mon équipe.
Ah oui, tout à fait.
Parce qu'il le mérite, puis je suis contente d'entendre ça, parce que pour nous, ça veut dire mission accomplie, tu sais, aussi. Parce que c'est vraiment d'avoir des chefs qui repartent d'ici, dans leur pays, avec une idée de Montréal, puis du Québec, qui fait plaisir, puis ils vont passer le mot aussi.
Alors, tu es dans la phase où tu fermes les dossiers et tout. Ça consiste en quoi également? Ça consiste en quoi? Tu fais les chiffres, tu fais la comptabilité.
Oui, exactement. Donc, mon équipe rédige, chacun des membres rédige un post-mortem. Donc, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, puis des recommandations pour les années suivantes. Mm-hmm. Moi, je fais la même chose. Évidemment, il faut rapatrier des factures, il faut faire un bilan budgétaire, c'est super important. On a des sondages à envoyer à tous ceux qui ont participé au festival pour avoir leur impression sur comment ça s'est passé. Envoyer des remerciements aussi à tous ceux qui ont participé au festival parce que... Si je le dis, sans eux, il n'y en a pas de festival. Mm-hmm. Donc, on est là-dedans, on ferme les dossiers, puis on remet à neuf, on remet les compteurs à zéro. On a des tableaux, là, tu sais, à plus finir, on les remet à jour pour l'année prochaine. On les prépare, là, on met la table pour l'année prochaine.
Est-ce que, parce que tu parles de fermer les comptes budgétaires, est-ce que vous avez une grosse pression de la part de Spectra ou de la part... Tu parlais des compressions budgétaires tantôt, là. Est-ce que... Il y a une grosse pression, on est venu te voir en disant, écoute, là, va falloir penser à couper dans des budgets, des choses comme ça, ou pas trop?
Ben oui, on a de la pression parce que ça prend des sous pour organiser un festival, tu sais, quand même.
Peux nous dire combien ou pas?
Ben, je sais pas, non, j'aime mieux pas. Okay. Je sais pas si je peux dire ça, en fait, c'est une bonne question, mais c'est pas un gros budget, vous seriez surpris. Tout ce qu'on fait avec si peu, là. Parce que, tu sais, la campagne promotionnelle, elle vaut presque 500 000 $. Donc, tu sais, ça prend des sous, là, pour faire, tu sais, toute la promo qu'on envoie de la promo, là. Tu sais, bon, ben, faire venir tous les médias internationaux. On les paye directement. Les chefs, on a une commandite d'Air France. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pas pire. Mais l'hébergement, on le paye aussi. Donc, tu sais,
Vous les logez, H3 cette année, je pense. Une grosse partie.
Humanity, Montville, ouais. Et DoubleTree, oui. Reine-Élisabeth aussi. Donc, c'est nos hôtels partenaires. Ouais. Grâce à eux, ils nous donnent des nuitées gratuites quand même. Mais mes collègues, là, au département des commandites, qui vont chercher des comptes de Air France, de la Banque Scotia aussi, et là, quand même, à renouveler, on est content. Ils présentent la programmation gastronomique, fait qu'ils doivent aimer notre travail, je suis bien contente de ça. Donc, tu sais, les subventions aussi du gouvernement ou de la Ville de Montréal, tu sais, tout ça, c'est à renouveler à chaque année. C'est du travail à recommencer à chaque année, hein. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, tu sais, la pression... Elle vient aussi de l'époque. Hein? On est dans un contexte inflationniste, on est dans un contexte où la main-d'œuvre coûte cher, les matériaux coûtent cher, mais tout ça pour faire un festival, ça en prend. Donc tu sais, les bureaux, tu sais, il faut penser, il y a tellement de petites chaînes, de maillons de chaîne à mettre ensemble pour l'organisation d'un festival. C'est énorme. Et oui, ça prend des sous, tu sais. Mmh. Ouais.
Tu dois avoir en plus géré ce budget-là.
Je dois tenir les cordons de la bourse très serrés.
Donc là, c'est pour ça que tu dois te dire, OK, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Est-ce que tu peux nous parler d'une erreur que tu as fait dans les éditions précédentes, que tu dis, tiens, ça, c'était une bonne idée sur papier, mais c'est pas forcément une bonne idée. Financièrement, c'était pas assez répercutant.
Ou même pas assez... financièrement, ou juste...
Juste comme ça.
Ben... cette année, je peux parler d'une erreur qu'on a fait cette année.
25 services.
Oui, 25 ans, 25 services qui a dû être annulé parce que les ventes étaient moins au rendez-vous. On avait peut-être mis les billets trop chers.
Alors, $250 pour 25 services, c'est raisonnable.
Ouais. Ouais, parlons de l'événement qui a été annulé.
Ouais.
C'était pour les 25 ans, il y avait un menu 25 services,
ouais, ouais.
Mis en scène par un chorégraphe Nicolas Fonseca,
quand même,
en trois services. Alors il y avait, t'étais accompagné en voiture. Enfin, il y avait, c'était dans un truc immersif. Ça avait l'air incroyable,
ouais.
Mais c'est vrai que ça avait un prix et c'était vendu $250 le billet.
Ouais, il y avait un accord aussi de 5 verres de vin avec
Il y avait,
faut savoir vendre ce genre de.
Je pense qu'il y avait Clément qui était dessus.
Boivin, voilà, Stéphanie Labelle, Ray McDougall. Ouais.
Ouais, donc. Donc, c'était quand même un gros truc. Et alors, c'était simplement purement les billets qui n'ont pas été vendus.
Ouais. Donc, c'était trop lent au niveau des ventes. Puis, la direction avait craigné que ça soit plus trop de grosses pertes financières. Donc, ils ont demandé qu'on annule l'événement. Puis, je comprends, tu sais, justement, on est dans un contexte où on ne peut pas prendre des risques en ce moment. Mm. Tu sais, malheureusement, c'est important. Ça fait partie d'une bonne gestion.
La direction de Montréal en Lumière ou de
Spectra.
C'était à la taverne 1909, je crois.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc la direction de la taverne.
Oui, la direction de Montréal en Lumière, on peut dire. Là, okay.
Donc si tu devais tirer une leçon de ça, est-ce que tu ferais quelque chose différemment ou les gens sont pas encore prêts?
Ben, je me demande, tu sais, est-ce que c'est le lieu peut-être qui était moins attrayant? Est-ce que il y avait plus de travail au niveau du marketing ou de la promotion à faire? Est-ce qu'on y en a pas d'événements comme ça à Montréal encore, hein, mais il y en a à travers le monde des événements comme ça. Donc comment on fait ça? Comment on peut le faire sans prendre un trop gros risque financier? On n'est pas dans une époque en ce moment où on peut prendre un gros risque financier. Puis comme je disais, ça fait partie de bien gérer un festival. C'est aussi gérer le budget comme il faut pour être sûr d'avoir une pérennité.
C'est ça. Ça prend qu'il faut tirer la plug à un moment.
Malheureusement, même si c'est une super idée.
Ouais, il y a un côté.
Ça doit faire mal de dire tiens, j'ai mis de l'énergie, c'est une super idée.
Il y a fort depuis le mois de septembre que Nicolas travaillait là-dessus avec moi et mon équipe. Il y avait d'autres mondes aussi d'impliqués, donc c'est sûr que ça fait un pincement au cœur, mais faut apprendre, puis tu sais. Il faut pas faire fi non plus des finances dans un festival.
Non, surtout.
C'est beau d'être passionné, d'être intéressé, d'avoir des grandes idées, de la créativité, mais ça prend des sous.
Si t'en perds trop, l'année prochaine, il y aura zéro festival, il y aura zéro passion, zéro créativité.
Exactement, c'est ça. Exactement. Donc, c'est important de gérer le budget. C'est super important. C'est comme quand t'es parent. C'est tellement facile de dire oui, mais c'est plus difficile, c'est de dire non.
C'est comme un restaurateur. Il sait pas gérer ses finances, il ferme la porte. C'est fini.
Ouais.
Même s'il sert c'est super bon ce qu'il sert, s'il a pas calculé ses coûts, s'il gère pas ses finances, c'est fini, il ferme la porte.
Exactement.
Donc,
C'est,
ça fait mal, mais...
C'est toujours un sujet délicat à aborder, l'argent, mais malheureusement, c'est une réalité, c'est un peu le nerf de la guerre, en fait.
Tu me regardes.
Ça fait une heure.
Je pensais que tu avais oublié une question
ça
encore.
On va pas finir sur ça. C'est quoi ta plus grande fierté cette année? Ou des années précédentes?
Ben, je pense que c'est le rayonnement que Montréal en Lumière a eu à Montréal même, mais à travers le monde aussi. C'est vraiment de voir, je pense que c'est de voir Montréal en Lumière, la culture culinaire de Montréal à travers les yeux des chefs qui arrivent ici pour la première fois. Mmh. Tu sais, de voir ta ville à travers les yeux de quelqu'un qui la voit pour la première fois, cet émerveillement-là, là, c'est de découvrir, tu sais, j'entendais Julien Royer dans votre podcast parler des, tu sais, des ingrédients canadiens. Tu sais, de dire qu'il a, en fait, il a mis en valeur ses traditions de chez Odette, ses plats de chez Odette, mais avec des produits canadiens. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. C'est une grande fierté que les chefs d'ici rayonnent aussi. C'est une vitrine, Morin-en-Lumière, pour les chefs.
Absolument. Ouais. Une belle vitrine.
Tu sais que grâce à nous, Adrien Cachot a mis du phoque sur le menu.
Oh! C'est vrai, j'avais entendu cette histoire-là.
Ça c'est notre plus grande chance.
Bravo, quand même, les garçons. Bravo.
Parce que ça allait, on trouvait que ça allait vraiment avec son type de cuisine et c'était une interrogation qu'on avait.
Ça s'est fait pendant le podcast.
Ça s'est fait pendant le podcast.
On discutait et puis Pascal dit, parce que la veille, on avait rencontré Maxime Lisotte, on avait parlé du phoque. Il lui dit, est-ce que t'as goûté le phoque? Il fait, non, jamais. Puis tu sais, Adrien Cachot, comme il est un peu rêveur, un peu artiste pour le coup. Et Pascal lui dit, il me regarde, il fait « Aymeric, trouve-lui du phoque pour demain ». Il y a Florimond qui me regarde avec la petite larme à l'œil. Il était genre 5h le soir. Adrien dit « Ah ok, pas de problème ». Et puis ils l'ont fait, on est passé le lendemain, ils en avaient trouvé.
Oui, c'est le menu du boulevardier, puis effectivement...
Ils l'ont fait en saumure, et puis après fumé, c'était super bon, avec une petite crème et du caviar, c'était super bon, ils nous ont invités pour goûter ça. Enfin, on s'est invités pour goûter ça.
Alors, moi, je ne veux pas finir quand même sur ça, parce que j'ai d'autres questions, excuse-moi, Aymeric. Il y a beaucoup de chefs français. Est-ce qu'un jour, vous allez explorer, style, la cuisine du Nord ou pas?
La cuisine du Nord de la France?
De l'Europe.
Mais l'année passée, c'était la Scandinavie qui était à l'honneur. C'était la nordicité, en fait. On a eu des chefs du Danemark, de la Norvège, de la Finlande aussi. Okay. Ça a été une belle édition, ça, d'ailleurs. Olivier Perret en a parlé quand il vous a rencontré, mais on avait... ça, c'était une belle rencontre entre Olivier et ce chef-là. Ouais, ouais. Vraiment,
C'est vrai, le rattaché aussi avait...
Il y avait une chef finlandaise.
C'était une belle histoire. Regardons mon
site. La chronique avait un super chef, Martin Moses, aussi, qui venait de la Suède, je pense. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe, mais tu vois, Olivier de Montigny était un peu réticent parce qu'ils reçoivent que des chefs belges habituellement. Ouais. Puis moi, j'avais trouvé que Martin Moses, il y avait un bon fit avec lui. Puis il a dit, OK, d'accord. Et puis, il était super content.
C'est ça, on n'a pas parlé de ça. Comment tu fais pour fitter les... Excuse-moi. Comment tu fais pour fitter les... Parce que t'as des chefs qui invitent leur connaissance, mais t'as aussi, toi, des chefs que tu invites toi, des restos que tu connais qui veulent accueillir des chefs. Donc, faut faire marcher ça, la Tinder, quoi.
C'est ça.
Prometteuse de la cuisine.
Oui, exactement.
Marieuse de la cuisine.
Oui, la marieuse de la cuisine. Mais souvent, il y a des chefs qui font leurs propres invitations, comme Jérémy Bastien avec Julien Royer, grâce à Rémi Durand, par exemple.
Oui, salut, notre meilleur auditeur.
Un de nos plus gros fans.
On a, par exemple, Simon Mathis qui a invité Emmanuel Pilon, mais Emmanuel était déjà venu au Manitoba à l'époque. Donc, ils se connaissaient déjà. Donc, il y a beaucoup de chefs qui font leurs propres invitations. Moi, j'en fais toujours une partie. Les Étoilés Verts, c'est mon initiative. C'est moi qui est allée chercher la liste des 500 chefs Étoilés Verts à travers le monde. J'ai réduit la liste aux 80 de la France. J'ai envoyé ça aux bonnes dames qui étaient intéressées à en recevoir. On en a reçu 9. C'est moi qui ai lancé les invitations. Sinon, il y a des belles histoires en 2022. Le retour de la pandémie, j'ai décidé de mettre la cuisine autochtone à l'honneur, donc d'inviter des chefs autochtones à cuisiner dans les cuisines des chefs d'ici, donc des chefs allochtones. Et on a, par exemple, j'ai présenté Lisanne Obomsawim à l'équipe du Virunga. Et ils se sont restés amis, même qu'ils ont gardé du poisson fumé du frère de Lisanne sur le menu du Virunga pendant plusieurs mois. Et après ça, Lisanne, qui était invitée comme chef autochtone au festival Koué, à la rencontre des peuples autochtones à Québec, ils ont invité Maria-Josée du Virunga au festival Koué. Puis cette année, Lisanne est revenue au Virunga. Donc, tu sais... Il y a des amitiés. Des fois, il y a des matchs que je fais qui font que ça crée des amitiés. Même chose avec la chef Émilie Bégin encore. Donc, tu sais, il y a vraiment... il y a des moments très... Des beaux mariages. Ouais, des amitiés qui survivent au festival. Les rencontres humaines, ça fait partie aussi d'une fierté de Montréal en lumière. Parce qu'il faut pas l'oublier. Tu sais, aussi, c'est important, les rencontres humaines.
Là, c'est une belle conclusion.
Ouais, je pense qu'on va laisser. Merci pour tout. Merci pour ton temps, ta générosité. Et puis, bonne édition 2025.
Merci, Julie, pour ton temps. Félicitations à toi et à ton équipe. C'était vraiment, on s'est éclaté. C'était génial, on s'est régalé. Merci à toi de nous avoir écoutés. Si tu veux nous suivre, on est sur Instagram. Si tu veux nous soutenir, on est sur Patreon. Et si tu veux regarder cet épisode, on est sur YouTube. Ciao, restez dans le jus.